wanna be my lover, you gotta get with my friends.
I'm representing for the gangsters all across the world. Still.
Bonjour, bonsoir, c'est Manu et je suis très heureux de vous présenter ce nouvel épisode de Radio Cassette. Dans chaque épisode de Radio Cassette, on rembobine nos cassettes et on vous raconte l'histoire inédite des albums qui ont marqué les 90s. Dans cet épisode, on va vous parler de Sonic Youth. En mélangeant le punk à l'avant-garde, Thurston Moore, Kim Gordon et Lee Ranaldo se sont bâtis une solide réputation dans l'underground américain dès les années 80. Il faut dire que le style de Sonic Youth préfère au format pop la dissonance, les textures et une science du Larsen inspirée directement des Stooges ou du Velvet Underground. Mais il faudra attendre Goo, en 1990, leur premier album signé sur une major, pour que la carrière du groupe décolle. Sonic Youth gagne en notoriété et accompagne en plein âge d'or du clip sur MTV les jeunes pousses du grunge grâce à des titres cultes comme Cool Thing, Disappearer ou Dirty Boots. Sans jamais céder à la facilité, le groupe est devenu un monument du rock qui a influencé toute une génération d'artistes comme Nirvana, Beck, Mogwai ou Sigouros. Goo, on en parle tout de suite maintenant avec le Sonic Radio Cassette Crew, Fanny,
hello,
Grégoire,
salut tout le monde,
et Olivia.
Hello.
Alors Olivia, tu vas nous parler de quoi aujourd'hui ?
Eh bien, je vais vous parler de Madonna et des Simpsons.
Ok, et toi Greg ?
Moi, je vais vous parler guitare customisée et gros Larsen. Ça va déménager.
Ouh.
Et on retrouvera Fanny en fin d'émission.
Oui, et moi, je vous parlerai d'art contemporain punk, le kiff.
Allez, montez le son, on va commencer par se réécouter l'album en mode Fast and Furious. C'est parti.
Goodbye, Hollywood. Goodbye, Downey. Hello, Janice. Hello, Dennis, Elvis, and all my brand new friends. I'm so glad you're all here with me. Until the very end.
Thank you. Voilà pour les 11 titres de Goo. Alors c'est le 6e album de Sonic Youth. Il sort le 26 juin 90 en cassette, CD et vinyle sur DGC, le tout nouveau label de David Geffen chez Universal. On va en reparler. Alors 1990, c'est la fin de la guerre froide. L'Irak envahit le Koweït. Au cinéma, on va voir Maman, j'ai raté l'avion de Chris Columbus,
ouais,
et Cyrano de Bergerac.
Non, Maman, j'ai raté l'avion.
Oh, les deux sont bien.
Ouais.
Les deux sont bien.
C'est la même ambiance, quoi.
Ouais.
Jean-Michel Jarre rassemble 2,5 millions de personnes à la Défense et la musique dans la peau de Zouk Machine squatte le top 50 pendant 9 semaines.
J'allais chanter, mais bon, je me retiens. Ne faisons pas ça à nos auditeurs.
Non, 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 s'il te plaît.
Alors, en 1990, on n'entend pas beaucoup de rock indé sur les radios. À la place, c'est plutôt Depeche Mode, Bon Jovi et Phil Collins. Chez nos amis les disquaires, aux côtés de Sonic Youth, on découvre la même année le Facelift d'Alice in Chains, le Repeater Fugazi, Bossa Nova des Pixies ou encore Screaming Life de Soundgarden. Que du lourd en 90. Voilà, on va commencer par se faire un petit tour de table et rembobiner vos souvenirs. Ça vous évoque quoi, Sonic Youth ? On va commencer par toi, Fanny.
Alors moi, Sonic Youth, déjà, ça m'évoque la période pendant laquelle j'ai découvert le groupe. Et la manière dont je l'ai découvert, c'était pendant mes études d'histoire de l'art, en fait. J'ai découvert Sonic Youth par son lien à l'art. Et quand j'étais étudiante, je travaillais sur la scène underground californienne. Et donc, en faisant des recherches, je suis tombée sur ce nom. Et puis, les liens avec Nirvana m'ont donné envie d'écouter. Et donc, voilà, c'est
assez... Il faut savoir que Fanny est la fan number one de Nirvana.
Ah bon ? Je suis pas du tout au courant.
Et le Sonic Youth. Ensuite, ça m'évoque aussi mon tout dernier concert avant le lockdown, avant le Covid. C'était un concert de Kim Gordon. Et donc c'est un souvenir assez fort parce que normalement je vais voir beaucoup de concerts et donc là pendant un an et demi comme
t'as
tout le monde
j'ai un souvenir de celui-là,
ouais,
quoi.
Et donc il a vraiment une valeur hyper particulière. Et puis enfin j'ai plein d'autres souvenirs liés à Sonic Youth, des vacances en Toscane ou avec des amis on écoutait Washing Machine en voiture non-stop, et donc je suis très liée à cet album là. Voilà,
Il y a l'histoire de Sonic Youth en général. Ok, toi Grégoire ?
Alors moi aussi, c'est une longue histoire Sonic Youth. Alors j'ai découvert par mon grand frère qui était hyper fan. Moi à l'époque j'étais plutôt team Nirvana, Rage Against the Machine. Et quand il m'a fait écouter les premières fois, bah, j'ai pas trop aimé. Je trouvais ça un peu difficile, un peu dissonant. Voilà, c'était pas forcément accessible pour les oreilles d'un gamin de 12-13 ans. Et puis petit à petit, j'ai commencé à apprécier et on est allé ensemble. Le souvenir que j'ai, que je n'oublierai jamais, c'était un concert à l'Olympia de Sonic Youth et c'était absolument incroyable. Vraiment, je me suis pris une claque un peu comme, je sais pas, voir un avion de chasse au décollage, tu vois. C'est
le
juste.
Concorde,
c'était
quoi.
Comme c'est ça, le Concorde dans ta gueule. C'était impressionnant. Et une petite anecdote sur le concert. En première partie, il y avait un chanteur français. Un peu naze, un peu comme si, je sais pas moi, Vianney faisait la première partie d'Iron Maiden, tu vois.
Trop
on t'imagine l'accueil du concert, l'accueil du public. Ça a été un grand moment de solitude pour le mec.
C'est horrible,
vraiment,
ça.
Mais horrible. Vraiment le mauvais plan des managers, des tourneurs, ils ont complètement déconné. Du coup, le mec s'est fait laminer par les spectateurs de Sonic Youth. Voilà. Et après, Sonic Youth est arrivé, évidemment. Et là, on a déliré, gros pogo et super ambiance et groupe incroyable à voir. Donc voilà. Et j'écoute toujours Sonic Youth. Encore aujourd'hui.
Ok, toi Olivia, ça t'évoque quoi comme souvenir ?
Alors moi, en 90, certainement aucun, puisque j'avais 6 ans, donc c'est pas ce que j'écoutais évidemment, vous non plus, mentez pas. Après, dans ma vie d'adulte, si, plus de souvenirs, mais bon, j'en ai choisi un peu plus rigolo que les autres. En fait, j'avais un ex qui avait un chat qui s'appelait Gordon, en hommage.
À Kim Gordon.
Absolument.
Voilà. Cool
trop bien l'anecdote.
Cool, ouais.
Et toi, Manu ?
Eh ben écoute, alors moi, je vais vous parler de Goo. Goo, c'est un disque en fait que j'ai acheté à la Fnac, un très très beau coffret qui était un peu cher. Hein. C'était la réédition pour les, je pense, les 20.
Je crois que je connais cette histoire.
je vais y venir.
Tu veux dire, t'as payé cet album avec le Club Dial pour une fois ?
Non, pas du tout.
C'est
non,
mieux que ça.
Pas ça. J'allais à la Fnac et en fait, à l'époque, bah, j'avais pas beaucoup de sous, mais j'avais plein d'envie. Donc
on n'a pas de pétrole, mais on a des idées.
Moi, je sais ce que tu faisais, Manu. Je peux le dire ?
Non, je vais vous le dire. En fait, ce que j'ai fait, c'est que...
Tu volais ?
J'allais...
Non, pas tout à fait.
Que ça. Écoutez bien, ne refaites pas ça chez vous. Ce que je faisais, c'était de prendre l'autocollant d'un maxi électro dans les 8-9 euros, qui en général est pas étiqueté, mal étiqueté. Et je posais cet autocollant sur le code barre en fait de Sonic Youth. Donc,
du coffret de Deluxe.
Quel canaille.
J'arrive en caisse avec le coffret Deluxe 4 CD, 4 vinyles, pardon, livret la totale,
mais
le
attends,
truc qui vaut bien 50 balles, et je le fais passer à 8 sans aucun problème.
C'était il n'y a pas si longtemps, ça, à mon avis.
Oh, c'était une petite dizaine d'années quand même.
Il y a bien 15 ans, je pense.
T'étais quand même adulte.
Mais je me souviens de cette histoire. T'étais super fier de toi. Et tu m'avais dit regarde le coffret et tout.
Bad boy.
Et bizarrement, c'est un album que j'ai pas vraiment écouté en fait. Et en fait, il a fallu que j'attende l'émission d'aujourd'hui pour pouvoir l'écouter plus à fond. Okay. Et
le mec qui le vole, il l'écoute même pas.
Ironie.
Quel loser.
Le klepto total en fait.
Voilà, alors on va maintenant vous raconter comment Sonic Youth est devenu l'emblème de tout un mouvement. Et pour bien comprendre tous les ressorts, on va revenir avec toi Olivia au début des années 80 à New York, dans le quartier bohème du Lower East Side.
C'est un peu là que ça se passe, non Olivia ?
C'est là où ça se passe. Et vous savez, j'adore revenir sur les débuts, comment les groupes se sont rencontrés. Ici, et comme souvent pour les histoires d'amour, parce que c'est aussi une histoire d'amour, la rencontre s'est faite par l'intermédiaire d'une amie commune. Thurston Moore jouait du punk dans le groupe appelé The Coachman, Kim Gordon dans un groupe nommé CKM avec deux copines à elle. Et c'est l'une de ses amies, Miranda, qui présente Kim à Thurston.
Cœur avec les doigts.
Trop chouchou, je vous raconte vite fait le coup de foudre. Thurston Moore s'en rappelle dans les moindres détails. On va l'écouter nous raconter ce souvenir.
Kim portait des lunettes avec des verres de soleil rabattables et avait un chien de berger australien nommé Egan. Elle avait une queue de cheval décentrée et portait une chemise et un pantalon à rayures bleues et blanches. Elle avait des beaux yeux, le plus beau sourire. Elle était très intelligente et semblait avoir un intellect sensible et spirituel.
C'est trop mignon.
C'est trop beau.
Moi, j'adore.
Ouais, franchement, j'adore.
C'est de la poésie.
Donc, je continue mon histoire. Ils traînent plusieurs soirs ensemble. Lui est clairement sous le charme, mais ne sait pas si c'est réciproque. Il ne se passe rien. Et puis, un soir, au moment de reprendre le métro, elle finit par lui effleurer le bras et lui lance un « see you later » qui fait comprendre à Thurston que « bah, y a moyen ». Elle l'invite chez elle quelques jours plus tard pour venir, je cite, « venir jouer de la guitare ». On connaît tous cette technique.
Ouais.
Et c'est là qu'ils s'embrassent pour la première fois. Ils se marient en 84 et ils auront ensemble une fille, Coco Gordon Moore, qui naît en 94. Une histoire finalement... une histoire d'amour assez classique, hein. Sauf que les deux sont animés par une envie et une fureur de faire de la musique, très loin de ce qu'il se fait alors. Mais revenons-en à la musique. Durant l'année 1980, ils forment un premier groupe appelé Arcadians, du nom d'une tribu grecque de l'Antiquité qui utilisait la musique pour communiquer. Quelques mois plus tard, Thurston Moore et Kim Gordon recrutent le guitariste Lee Ranaldo après l'avoir vu jouer au No Wave Noise Fest de New York au sein de l'orchestre de guitare électrique de Glenn Branca. On va s'écouter un extrait de sa symphonie numéro 8, Spiritual Anarchy.
Bah, ça envoie du pâté, hein.
Ça envoie du pâté. Je pense que là, on l'a pas dans les conditions du concert avec les je sais pas
la drogue.
Ça devait être être assez impressionnant. En tout cas, Glenn Branca, c'est vraiment une influence majeure pour Sonic Youth. Alors, c'est un guitariste assez avant-gardiste qui faisait des solos déjà complètement délirants dès les années 70. Enfin, qui avait vraiment un gros temps d'avance et qui a été une source d'influence très importante pour le groupe. Ouais.
Je vais reprendre mon histoire. Donc, le trio se produit quelques jours plus tard lors du même festival. Et pour la petite anecdote, ils n'avaient pas de batteur, donc chacun jouait de la batterie à tour de rôle. Ils resteront sur cette configuration jusqu'au recrutement du batteur Richard Edson.
Thurston Moore expliquera plus tard que leur concert à l'époque, c'était surtout beaucoup de fracas sonores faits à partir de baguettes, de batteries, de tiges de fer et de perceuses. Mais leur premier vrai concert aura lieu en septembre 81 au New Pilgrim Theatre. On y découvre notamment une version plus ou moins avancée de Burning Spear qu'on va écouter tout de suite. Alors, le hasard veut que Glenn Branca, on en a parlé, soit dans le public cette soirée-là. Après le live, il décide de fonder son label, Neutral, afin justement de publier un disque avec eux.
Un premier EP, tout simplement intitulé Sonic Youth, sort donc en 82 sur le label Neutral, tu l'as dit, et le groupe se prépare à enregistrer son premier véritable album.
L'enregistrement de Confusion is Sex est une catastrophe. Le batteur les lâche en plein enregistrement et les meilleures pistes seront effacées par erreur, notamment à cause d'une canette de coca renversée sur les bandes.
C'est l'accident à la con, quoi.
Il en résulte un album assez difficile d'accès. C'est ainsi que très rapidement, Sonic Youth devient le fleuron de l'avant-garde artistique et bruitiste new-yorkaise dans une lignée qui doit beaucoup au Velvet Underground, aux Stooges et à Glenn Branca, comme on l'a dit. En 85, ils sortent Bad Moon Rising. Sur cet album majeur, on retrouve beaucoup de guitares saturées, ce qui devient leur marque de fabrique, leur signature. Chaque guitare est accordée à des intervalles incompatibles avec des accords conventionnels ou des cadences harmoniques. Cette approche ouvre des possibilités mélodiques et harmoniques inouïes. Distordus, maltraités avec un tournevis, les instruments sonnent de façon totalement inédite. Moore compare d'ailleurs ces bruits à, je cite, « des signaux de détresse ». En 86, c'est le déclic. Ils comprennent que leurs techniques avant-gardistes peuvent s'approcher de structures plus conventionnelles et ne pas être seulement synonymes de déconstruction. Sister en 87, puis le monumental double album Daydream Nation en 88 avec son hymne Teenage Riot. It's not true what you make the way.
On a pas envie que ça s'arrête.
Il est génial ce morceau, quoi.
J'adore.
Il commence tout doux, c'est tout sensuel et tout. Il y a les doubles voix, il y a les guitares. Waouh.
Je vais vous faire écouter un autre truc très cool. Parce que Sonic Youth monte en parallèle un autre projet qu'ils appellent Teach on a Youth en référence à Madonna. Ils sortent donc sous ce nom le Whitey album qui contient notamment deux reprises de Madonna et j'ai très envie de vous faire écouter ce morceau.
Ah yes.
Ce morceau, je connaissais pas du tout. Ça démarre comme les Beastie Boys. J'ai adoré.
Ouais.
Ils adorent le hip hop, hein, Sonic Youth. Hein, ouais. C'est pas étonnant.
Non, mais il est mortel et ça termine comme du New Order avec la basse,
énorme.
Etc.
Je vous avais dit ou pas
et... Ah ouais, il est cool.
Merci,
cool.
Olivia.
Bravo, Oli.
Voilà, c'est tout pour moi. Non,
Alors, on est en 1990. Sonic Youth existe depuis 10 ans et enfin, ils signent sur une major pour reprendre les mots de Kim Gordon. Alors, ils sont bien conscients qu'ils ne vendront jamais des caisses, mais ils ont très envie de voir comment leur son fonctionnerait avec un plus gros budget de production. Donc, ils sont courtisés par toutes les majors. Ils signent alors avec Geffen, un gros label commercial, parce que David Geffen leur propose non pas le plus de thunes, mais parce qu'il leur offre une liberté artistique totale. Et le 26 juin 1990... Goo débarque chez les disquaires.
Sonic Youth, Goo, the album, worldwide, June 26, listen.
Ça, c'est du clip promotionnel. Ça, c'est du clip comme on les aime.
Donc, j'en reviens à nos moutons. Goo va devenir l'un des disques majeurs de la nouvelle décennie, véritable appel aux armes contre le son et les modes dominants du rock. À sa sortie, l'album reçoit les éloges de la critique. Dans un article d'août 90, le magazine Rolling Stone considère le disque comme l'œuvre la plus accessible de Sonic Youth. Goo est, je cite, « un essai brillant et prolongé dans un primitivisme raffiné qui réconcilie habilement les conventions structurelles du rock avec les passions jumelles du groupe pour l'élasticité tonale violente et l'holocauste garage punk ».
Comme ils y vont.
Rien que ça.
Le Los Angeles Times parle de Sonic Youth comme des Rolling Stones de la noise music.
Voilà, là c'est plus simple, on comprend. Là.
On comprend plus ça, ouais. Et trouve que les guitares déformées, les rythmes dansants et les refrains entraînants du groupe sont tout à fait adaptés à la diffusion radio. Le fait de passer sur une grosse maison de disques n'a absolument pas dilué leur fureur et leur inspiration, bien au contraire. Goo n'a rien d'un disque de vendu ni d'une œuvre facile. Il est simplement l'album à partir duquel Sonic Youth a pu accéder à des moyens de production plus importants. Leur musique se fait plus mélodique et touche enfin un plus large public.
La consécration, quoi.
Sonic Youth se place en 96e position au Billboard 200 et offre au groupe une reconnaissance à l'international. C'est à cette époque que Neil Young les convie à faire la première partie de sa tournée Ragged Glory. Sonic Youth se rapproche aussi d'un autre groupe, pas très connu encore à l'époque, mais dont vous avez peut-être entendu parler, surtout toi Fanny, j'ai nommé Nirvana.
Tiens. Moi, mais jamais.
Ils partent même en tournée ensemble durant l'année 91. Et d'ailleurs, 2 ans plus tard, Dirty, leur album, sera écrasé par l'énergie et le succès fracassant de l'album Nevermind de leur copain Nirvana.
Bah, tu peux pas tester, hein.
Ironie du sort, c'est Sonic Youth qui les avait recommandés à Geffen. Pas de bol. Avec goût, Sonic Youth acte l'enracinement de l'identité underground dans la culture pop. Aujourd'hui, avec le recul, le groupe semble être un des rares à avoir su conserver une sincérité et une forme de subversivité intacte. Dernière anecdote, et parce que c'est un petit peu rigolo, Sonic Youth fera une apparition dans l'épisode Homer Palooza des Simpsons, diffusé en 96.
Mais oui.
Le groupe vole de la nourriture dans le frigo du chanteur Peter Frampton. Sonic Youth a également enregistré une version du générique de fin qu'on écoute tout de suite.
Ils ont trucidé les Simpsons.
Ils sont un
je
peu
les
dans...
ont crucifiés, ces bâtards.
Ils sont un peu dans l'autocitation, là. C'est genre, comment Sonic Youth fait du Sonic Youth, un peu.
Ah ouais, c'est abusé, là. Je les aime bien, mais ils ont crucifié les Simpsons.
Et alors, on parlait de tournée. Il y a un super docu, d'ailleurs, qui s'appelle The Year Punk Broke, sur la tournée européenne de Sonic Youth et Nirvana, essentiellement. Et il y a une scène assez remarquable, notamment, dans laquelle Thurston Moore explique à un journaliste, avec un brin d'ironie, 1991, c'est l'année où le punk a finalement réussi à percer, à toucher la conscience collective de la société tout entière. Le punk moderne, comme on dit dans Elle Magazine.
Lol.
Et si on lit en fait entre les lignes à ce moment-là, c'est le début de la fin quelque part. Le mouvement punk des débuts, qui a dû commencer en 77, ouais, n'a plus grand-chose à voir avec le punk moderne qu'on voit dans Elle, justement, et qu'on appelle aussi le grunge ou le rock alternatif sur MTV.
Ouais, le punk était mort depuis belle lurette, hein, je pense. Hein. Déjà. Hein.
Place mieux avant.
Le punk, c'est quoi?
Place au grunge.
C'est 3 ans, quoi.
Allez, on va maintenant filer avec toi, Greg, en studio avec les Sonic Youth. On imagine qu'avec leur signature sur un gros label, ils ont pu enfin mettre les petits plats dans les grands.
Oui, parce qu'à la fin des années 80, dans le milieu du rock indépendant, l'argent court pas les rues. Et le groupe rappelle qu'à l'époque, il a du mal à se faire payer pour sa musique. Alors en signant avec Geffen, une major certes, mais sans être non plus un mastodonte, le groupe passe en effet dans une nouvelle dimension. Là où leur précédent album, Daydream Nation, avait coûté 30 000 $, la facture pour goût s'élève au final à 150 000 $, c'est 5 fois plus. Eh ouais.
Jean-Michel Calculette.
Dans une interview, Kim Gordon parle d'une idée, entre guillemets, un peu perverse, celle de faire un disque de rock indé, mais avec le budget d'un groupe mainstream destiné à être diffusé à la radio. Alors pour l'enregistrement de Goo qui se déroule dans les premiers mois de l'année 1990, Kim, Thurston, Lee et Steve Shelley, le batteur, ont déjà commencé à travailler à partir de démos enregistrées sous la supervision de Don Fleming et Jay Macis de Dinosaur Jr. Des démos enregistrées en 89 dans un petit studio. C'est la première fois que le groupe enregistre des démos aussi abouties pour un album. Alors comme à leur habitude, les Sonic Youth font évoluer leurs morceaux grâce à de généreuses improvisations où chacun apporte sa pierre à l'édifice. Vous noterez que chez Sonic Youth, chaque membre est crédité à part égale sur chaque titre. On y retrouve déjà Tunic, dédié au destin tragique de Karen Carpenter, des Carpenters, ou encore l'hymne féministe Cool Thing. Merci Kim Gordon qui avait déjà un sacré temps d'avance.
J'ai une petite anecdote à ce sujet.
Ah ouais, vas-y Olivia.
Oui, tout à fait.
Vas-y.
Alors en fait, ils avaient organisé avec le rappeur LL Cool G, je ne sais pas comment on le dit,
ouais, Cool G.
Une interview pour un magazine américain. Et en fait, Kim était hyper fan de ce rappeur. Elle était hyper, hyper excitée de le rencontrer. Ils se rencontrent, ils font l'interview. Il s'avère que le gars est en fait hyper misogyne. Elle est rentrée, mais furieuse. Elle lui a donc écrit les paroles de cette chanson en hommage à sa misogynie.
Du coup, ça donne quoi ?
Eh bien, je vous le traduis, mon cher Greg. Hey, cool thing, viens ici, assieds-toi à côté de moi. Il y a quelque chose que je vais te demander. Je veux juste savoir qu'est-ce que tu vas faire de moi. Je veux dire, est-ce que tu vas libérer les femmes de l'oppression des entreprises blanches masculines ? Dis-le de moi, hein ? Oui, non, ne sois pas timide, plus fort. Est-ce que tu n'aurais pas peur d'une planète féminine ? Je veux juste que tu saches que nous pouvons toujours être amis.
Prends-toi ça, LR.
Ça a le mérite d'être clair.
Prends-toi ça dans les dents.
Et voilà, c'est pas pour rien que j'ai une photo de Kim Gordon au mur de mon appart.
On confirme.
Je voudrais dire que tu es féministe.
Oh. Casse l'ambiance en soirée.
Bon, puis ensuite, après l'enregistrement de ces démos, c'est le producteur Nick Sansano, déjà à la baguette sur Daydream Nation, qui assure l'enregistrement au Sorcerer Sound Studio. Alors, Nick Sansano, c'est un producteur de hip-hop, notamment connu pour son travail avec Public Enemy, Ice Cube et compagnie. Et puis
un peu plus tard, il va produire aussi des albums à succès pour, en France, pour Noir Désir, pour IAM, pour même Zebda. Voilà, vous pourrez écouter tous nos précédents EP, on en parle déjà.
Ouais. Placement de produits.
Alors, il faut bien comprendre que sur ce disque, Nick Sansano, c'est pas un producteur qui va devoir forger le son de l'album. Le son de Sonic Youth, il est déjà parfaitement défini. Son boulot, ça va plutôt être de bien enregistrer sans altérer l'énergie punk du groupe. Nick Sansano va cependant expérimenter de nouvelles techniques pour enregistrer la batterie de Steve Shelley, qui va être isolée dans une cabine et enregistrée avec des micros d'ambiance. Comme on l'a dit, c'est la première fois que Sonic Youth peut profiter d'un budget aussi conséquent. En studio, le groupe n'est pas forcément super à l'aise malgré tout avec les contraintes de cet enregistrement très professionnel. Il faut savoir que c'est pas du tout un des musiciens de studio. Kim Gordon raconte les heures de préparation pour poser les micros dans tous les sens. On pouvait à peine bouger, explique la bassiste. Et en même temps, grâce au soutien financier de leur nouveau label, le groupe peut aussi prendre le temps pour expérimenter et profiter des possibilités d'une console d'enregistrement de 24 pistes. C'est l'occasion de multiplier ce qu'on appelle l'overdubbing, c'est-à-dire d'enregistrer plusieurs couches de guitare pour élargir le spectre sonore au maximum, comme sur cette improvisation bruitiste sur le titre « Moat ». Voilà, vous entendez les Larsen passer à la moulinette de ribambelles de pédales d'effet, les micros de guitare maltraités par des baguettes de batterie, les cordes lacérées par un archer, c'est ça.
Ils se font plaisir,
c'est
hein,
ça.
Clairement.
Le son de Sonic Youth, un goût pour l'expérimentation, la musique concrète associée à une passion pour les guitares customisées, comme l'expliquent Thurston Moore et Lee Ranaldo dans ce documentaire diffusé sur la chaîne Arte pour les 20 ans du groupe.
Nous sommes connus pour utiliser du matériel de mauvaise qualité, peu orthodoxe, que nous modifions pour nous l'approprier. Et si d'aventure nous perdions une guitare, nous pouvions perdre une chanson, car celle-ci était intimement liée au son d'une guitare déglinguée qui n'avait que trois cordes.
On adorait les guitares et l'idée que chacune d'entre elles avait sa propre personnalité qu'il fallait savoir exploiter. Il y en avait une pour frapper, une autre à jouer avec un tournevis ou encore celle pour les jolis accords. Le problème, c'est qu'en concert, on ne pouvait pas passer 5 minutes à nous accorder entre chaque morceau. Donc on a commencé à collectionner les guitares. Et donc il y avait toujours quelque chose d'un peu loufoque quand on devait partir en tournée avec pas moins de 16 guitares. Et donc, vous avez entendu Thurston Moore dire, bah voilà, si on perdait une guitare, du coup, on perdait une chanson parce qu'elle était customisée pour uniquement pour jouer une seule chanson.
C'est génial.
Et
j'adore.
C'est ce qui leur est arrivé. En 1999, ils étaient à Orange County, aux États-Unis, et ils devaient jouer dans un festival. Et là, on vient leur annoncer, désolé les gars, on s'est fait voler tout le matériel. Ils ont perdu toutes leurs guitares avec
16 donc, guitares.
Ah, c'est chaud.
Toutes leurs guitares avec leurs réglages, leurs accordages. Donc vraiment la catastrophe. Et bon, ce qui est quand même super sympa, c'est qu'ils ont pu jouer quand même à ce festival parce qu'en fait, tous les groupes les tous les groupes les connaissaient. Et donc, en fait, chaque groupe a prêté des guitares. les rodies de Sonic Youth, du coup.
Ont défoncé les guitares des
exactement,
autres.
Exactement. Enfin, ils les ont pas customisées, ils avaient pas le temps, mais voilà, ils ont coupé les cordes, ils ont refait les accordages, et puis ils ont réussi finalement à faire leur concert tant bien que mal. Et d'ailleurs, si vous voulez en savoir plus sur le matériel utilisé par le groupe, je vous invite à aller voir une vidéo YouTube d'une chaîne qui s'appelle Show Me Your Junk, montrez-moi vos déchets. Et dans cet épisode, on est avec Lee Ronaldo, on visite le studio du groupe Echo Canyon West avec tout le matos utilisé par Sonic Youth. C'est super intéressant. Voilà, c'est un peu geek, mais allez-y.
C'est pour les geeks, ça.
C'est pour les geeks, mais c'est très drôle.
Alors, l'autre truc super important à savoir pour bien comprendre le son de Sonic Youth, c'est l'accordage de leur guitare, ce fameux.
Voilà, exactement. Alors, ça peut sembler un peu technique pour les novices, mais c'est effectivement hyper important. En fait, une guitare, traditionnellement, l'accordage standard, la première corde, c'est le Mi, ensuite un La, ensuite Ré, Sol, Si, Mi. Mais il y a différents accordages acceptés, notamment ce qu'on appelle l'accordage ouvert en Ré, qui est beaucoup utilisé dans le blues, ou alors en Sol. Donc ça fait partie des accordages les plus connus. Ouais. On va dire 95% des titres que vous pouvez écouter, voilà, c'est grosso modo ces trois accordages. Mais Sonic Youth, eux, ils font des accordages complètement délirants, complètement ésotériques, qui n'existent pas, en fait.
C'est trop des quepons.
C'est trop tellement, tellement des quepons. Et ça, c'est l'influence vraiment de la musique concrète, des expérimentations du guitariste Glenn Branca. On en a parlé avec Olivia, ou encore du Velvet Underground. Je vous propose d'écouter tout de suite Thurston Moore, hein, qui en parle mieux que moi. Il était interviewé dans un événement organisé par la marque de guitare Thunder, chère à Sonic Youth.
I wasn't quite aware of, like, the history of alternate tunings in not only rock music.
Au départ, je n'avais pas vraiment de connaissances sur l'histoire de l'accordage alternatif. Quand j'ai écouté pour la première fois le Velvet Underground, je n'y ai pas du tout pensé. Je me suis juste dit que c'était de la super musique. C'est vrai qu'il y a un aspect drone dans leur musique, qui m'a ensuite amené à m'intéresser à cette approche également dans la musique traditionnelle, notamment orientale, et je me suis rendu compte alors à quel point c'était une musique sérieuse et importante, avec une portée spirituelle. En ce qui me concerne, je partais d'une guitare avec un accordage standard et puis petit à petit, je commençais à tourner les chevilles pour changer la hauteur des cordes jusqu'à trouver un accord ouvert qui me semblait génial. C'est de cette manière que beaucoup de morceaux de Sonic Youth ont vu le jour. Et puis Lee Ronaldo a également apporté ses propres accordages alternatifs.
Voilà, alors le groupe finit donc d'enregistrer au Sorcerer Sound Studio et file ensuite au Green Street Studios pour finaliser le disque.
Oui, et c'est lors de cette ultime session que des guitares vont être ajoutées. C'est également dans ce studio qu'est enregistré le featuring sur le titre Cool Thing avec le rappeur Chuck D de Public Enemy, qui au même moment terminait l'album Fear of the Black Planet. Ça tombait bien, puisque les Sonic Youth adorent le hip-hop, une autre forme d'underground qui explose à cette époque à New York.
Alors l'enregistrement
l'enregistrement s'est plutôt bien passé jusque-là, mais les choses finissent tout de même par se corser.
Et oui, trop de matière, hein. Ils se prennent la tête pour savoir quoi choisir à la fin. Et puis le groupe et la maison de disques ont des doutes sur les capacités de Nick Sansano à finaliser un mix qui conviendrait à toutes les parties. Il est donc éjecté au dernier moment. D'ailleurs, ils ne se parleront plus pendant plusieurs années. Au profit de Ron Saint-Germain, une pointure connue notamment pour son travail avec les Bad Brains.
Allez, salut Nick, maintenant tu vas aller travailler avec Zebda.
C'est pas cool quand même, quoi. Ouais, le gars fait cool. Tout et boum.
D'autant plus qu'il a aussi eu une mésaventure avec IAM sur l'école du micro d'argent. IAM a fini par, je sais pas si vous vous en souvenez,
oui,
dans
il a changé
épisode.
Son mix au dernier moment.
De même pas changé, ils ont tout repris en fait. Ouais. Ils ont tout repris complètement.
Le mec est nul en fait.
Non, il est pas.
Il
est... Non,
le
je pense pas. Je pense pas. Je pense
pas. Il plaît pas à tout le monde, il a sa personnalité. Voilà quoi.
Bon, au final, l'album sort en juin 1990, mais le mix final ne convient pas au Sonic Youth, trop formaté pour la radio. Ils finiront par sortir un an plus tard sur le label pirate du groupe Sonic Death les démos enregistrées avec Jay Macy's de Dinosaur Jr. On en a parlé. Alors comme on vient d'écouter Cool Thing, je vous propose d'écouter la version démo pour que vous voyez bien la différence. Qu'est-ce que vous en pensez?
J'entends aucune différence.
T'entends aucune différence? Non, sérieux?
Oh, guitare.
C'est parce que tu connais peut-être pas assez bien le morceau, mais on sent que c'est beaucoup plus compressé, on sent que le son est plus lourd, la basse, tu sens que c'est beaucoup plus tendu aussi. Pour moi, il y a une meilleure énergie, quoi, clairement.
Mais ah ouais, toi tu préfères. Bah, je trouve que ce morceau il passe bien sur la version démo, mais j'ai écouté d'autres parties où franchement je préfère la version studio, hein, désolé. Hein.
Et il joue quoi du coup sur scène? Quelle version?
T'as déjà $1000 en fait. Il joue une version live du coup.
Du coup, c'est encore différente.
Bah ouais, ouais. Ni l'une
same,
ni l'autre.
Same, but ouais. Different.
Voilà. Et puis en plus, à chaque fois en live, c'est différent.
Non, Cool Thing passe bien sur la version démo. Par exemple, t'écoutes Dirty Boots. Très franchement, c'est quand même cool, un bon gros mix un peu pute avec des gros compresseurs bien cool et qui coûtent plein d'argent.
T'aimes ça quand c'est sale, hein.
T'aimes
ça quand c'est
sale. Ah non, j'aime ça. Hein. Non, franchement, quand il y a de la thune, c'est bon aussi.
Et bah alors du coup à sa sortie le son FM de Sonic Youth sur Goo n'a pas été du goût de tout le monde, de tous les fans. Ils ont pas crié à la trahison, au scandale.
Ouais, il y en a quelques-uns qui ont crié à la trahison, mais selon moi c'est pas ça, hein, parce que le groupe il reste quand même fidèle à ses fondamentaux, un équilibre instable entre le bruit et la mélodie, le rock et l'avant-garde, équilibre qui selon moi trouvera sa quintessence sur Washing Machine 5 ans plus tard, leur meilleur album. Bon,
oui.
c'est qu'un avis. Mais Goo reste sans doute le plus iconique de leur discographie. Et ça, on le doit à cette musique qui parvient à faire coexister pour la première fois rock commercial et musique expérimentale.
Et iconique aussi parce que la pochette, elle est complètement culte. C'est d'ailleurs ce dont on va parler tout de suite avec toi, Fanny. Et vu ce que tu nous as raconté tout à l'heure en intro, quelque chose me dit que c'était pas trop pénible pour toi de bosser sur cette pochette.
Non, tu as raison. C'était même tout l'inverse de pénible. J'ai jamais été autant dans mon élément. Alors avant de rentrer dans le détail de l'artwork de Goo, je pense qu'il est important de rappeler que la plupart des membres de Sonic Youth a un lien fort avec les arts plastiques. Lee Ranaldo était élève en école d'art à New York et Kim Gordon a carrément bossé en galerie, comme moi, quand elle était jeune. Quand j'ai lu ça dans sa bio, j'ai eu une sorte de révélation. Elle a bossé avec Larry Gagosian à ses débuts. Le mec est aujourd'hui l'un des marchands d'art les plus célèbres au monde. C'est assez fou. De mon côté, donc j'ai dit tout à l'heure, c'est par ces nombreux liens avec l'art contemporain que j'ai découvert le groupe. J'ai étudié, quand j'étais en histoire de l'art, la manière dont les artistes américains issus de la contre-culture, le punk notamment, ont réussi à se faire un nom dans le marché de l'art mainstream, dans les grandes galeries et musées. J'ai travaillé sur des mecs comme Jim Shaw, Tony Ursler, Mike Kelly qui signe la pochette de l'album Dirty, et évidemment Raymond Petitbon qui est le dessinateur dont l'œuvre figure sur la pochette de Goût.
Ah, un artiste cool ça, Raymond Petitbon. Est-ce que tu pourrais nous expliquer un petit peu qui est Raymond ?
Alors, en deux mots, Petitbon, c'est vraiment une figure intéressante car il est à la fois une icône du milieu underground et un artiste mondialement reconnu dans le monde de l'art. Son travail est entré dans des collections prestigieuses, comme celle du MoMA à New York ou du Centre Pompidou à Paris. Il a un style hyper reconnaissable qui mélange dessin à l'encre de Chine et texte, avec beaucoup de références à la pop culture. Dans l'esthétique, ça ressemble un peu à de la bande dessinée.
Et le mec vient de la scène punk.
Ouais, exact. Son grand frère Greg Jean va fonder le groupe Black Flag en 1976, l'un des premiers groupes de punk hardcore et précurseur du post-hardcore. C'est Raymond qui trouve ce nom de Black Flag d'ailleurs pour le groupe et qui va dessiner le célèbre logo avec les quatre barres noires que je rêve de me faire tatouer depuis des années. Petitbon joue aussi accessoirement comme bassiste, remplaçant dans le groupe. Alors, dès cette période, il se met à dessiner des flyers, des posters et des pochettes pour d'autres groupes comme les Ramones, Meat Puppets ou Dead Kennedys. Tout ça en commençant sa carrière dans l'art avec le succès donc qu'on connaît.
Ok, alors donc quand il collabore en 1990 avec Sonic Youth pour la pochette de Goût, c'est déjà une star en fait le mec.
Alors peut-être pas autant la star qu'il est aujourd'hui, mais c'est déjà un nom incontournable aux États-Unis. Il faut dire que juste avant Goût aussi, pour son album Daydream Nation, Sonic Youth s'est carrément payé le luxe d'avoir un tableau de Gerhard Richter sur sa pochette. Richter, pour ceux qui ne le connaîtraient pas, c'est juste le peintre allemand le plus célèbre de ces 50 dernières années. Bref, tout ça pour dire qu'ils sont super forts en termes d'image et ils vont encore une fois le prouver avec la pochette de Goût qui est devenue pour la génération X un symbole aussi célèbre que la banane de Warhol et du Velvet dans les années 60. Alors entrons dans le vif du sujet. Sur cette pochette, on voit un dessin en noir et blanc qui représente un couple de mods. Elle fume une cigarette, lui a le bras posé sur son épaule, il porte des lunettes noires. À droite du dessin, il y a un texte qui dit:
j'ai piqué le petit ami de ma sœur et tout devint tourbillon, chaleur, flash. En une semaine, nous avons tué mes parents et taillé la route.
Alors, ce couple n'est pas un couple de fiction. Pour le dessiner, Raymond Petitbon s'est basé sur une photo de presse prise dans les années 60 à l'occasion du procès des Moore Murders, les meurtres de la Lande, un fait divers sordide qui a ébranlé l'Angleterre. Sur la photo, ce ne sont pas les coupables eux-mêmes, mais la sœur de la tueuse et son mec qui ont dénoncé et permis l'arrestation des serial killers.
Ah, c'est marrant ça, parce que moi j'ai lu dans l'autobiographie de Kim Gordon que ce dessin s'inspire aussi du film La Balade Sauvage.
Ouais, La Balade Sauvage, c'est le premier film de Terrence Malick qui est sorti en 1973 et qui raconte la folle cavale d'un couple de jeunes qui sème la mort sur son passage.
Avec Charlie Sheen.
Ouais, c'est celui-là.
On est en effet dans la même veine. Et donc, pour clore sur la pochette, au dos, on a un autre dessin de Petitbon avec la tracklist écrite à la main, dans une esthétique très do-it-yourself issue du punk. Et à l'intérieur du livret, on ne trouve pas les paroles des chansons, ça change de d'habitude. On trouve un grand dépliant recto verso avec d'un côté une mosaïque en noir et blanc qui mélange photos, dessins, tracklist et crédits. Et de l'autre, un grand poster avec une vingtaine de photos très colorées, issues d'un shooting avec le photographe américain Michael Lavin et la styliste Suzanne Sazik. La direction artistique est assurée par Kevin Regan, graphiste attitré de Geffen Records à l'époque. Et mini parenthèse sur Michael Lavin, parce que j'ai poussé des cris d'admiration en découvrant son travail photo. L'exemple parfait du mec qui était au bon endroit, au bon moment, puisqu'il était étudiant à Olympia dans les années 80. Et donc, il a couvert la naissance de la scène grunge à Seattle, rien de moins. Kurt Cobain, c'était son poteau et il a pris certaines des photos les plus célèbres de Nirvana. Gros kiff.
Ah bah tu m'étonnes. Bon ok, on a vu que Sonic Youth avait plein de connexions dans les arts visuels. Du coup, j'imagine qu'ils se sont aussi fait plaisir sur les clips.
Ouais, alors le constat déjà, c'est qu'ils sont hyper productifs puisque dans le cas de l'album Goût, ils ont choisi de clipper les morceaux. En fait, ils ont carrément sorti une cassette VHS avec 11 vidéos dans l'ordre des 11 chansons de l'album. C'est complètement fou.
Avant les Daft Punk.
Qui a fait ça ?
Bah bien sûr, les Daft Punk, ils ont fait ça avec Discovery, leur deuxième album.
Ouais, tu sais que j'aime pas Daft Punk, donc je m'en bats.
Elle aime Nirvana, on t'a déjà dit.
On peut dire donc Goût, cette cassette VHS, c'est une déclinaison vidéo de leur musique. Je sais pas s'il existe un précédent, mais pour moi, c'est du jamais vu. Donc il n'y a pas de précédent, mais il y a apparemment un suivant avec Daft Punk, comme tu viens
oui,
de dire.
Oui, il y en a d'autres aussi, ouais.
Alors au programme, 3 clips financés par Geffen Records pour accompagner les singles Dirty Boots, Cool Thing et Disappear, plus 8 clips financés par Sonic Youth qui ont invité des potes cinéastes avec qui ils avaient envie de travailler. Et le saviez-vous, les vidéos de Dirty Boots et Cool Things ont été réalisées par Tamra Davis, dont Julie de 2 heures de perdu nous a parlé dans l'épisode sur Britney Spears.
Tiens,
puisque
tiens.
C'est celle qui a fait le film Crossroads.
Ouh là 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 là, le grand écart,
hein.
ouais. Ça n'a pas très bien tourné après.
Elle devait payer ses impôts, je pense.
Comme quoi, avant de suivre la voix du nanar, elle a fait quand même 2-3 trucs bien.
Grave. Et donc, avec le clip de Disappear, lui, il a été fait par Todd Haynes, un super réalisateur à qui l'on doit les films Velvet Goldmine, I'm Not There sur Bob Dylan et Carol avec Kate Blanchett et Rooney Mara. Bref, un très très beau casting. Pour les clips financés par Sonic Youth, forcément, c'est un peu plus expérimental et cheap. On sent qu'il n'y a pas beaucoup de budget. Derrière la caméra, on retrouve entre autres les artistes Tony Hursler et Richard Kern, le vidéaste underground David Markie, mais aussi les membres de Sonic Youth eux-mêmes, puisque Thurston Moore a dirigé My Friend Goo et Steve Shelley, Merry Christ. Je ne vais pas pouvoir vous décrire tous les clips, évidemment. Ça mériterait presque une émission dédiée. Mais tout de suite, un petit mot sur Dirty Boots. Le clip de Dirty Boots montre deux jeunes, un garçon et une fille, qui se rencontrent à un concert de Sonic Youth. On voit le groupe sur scène, on voit la foule pogoter et on les voit eux en pleine séance de eye contact, mignons tout plein, avec leurs cheveux longs et chemises à carreaux. La fille porte un t-shirt Nirvana alors qu'on est 6 mois avant la sortie de Nevermind. C'est comme si Sonic Youth venait adouber ses petits protégés en leur donnant un peu d'exposition médiatique. Qu'est-ce qu'ils sont sympas.
C'est génial.
Surtout qu'après, on l'a dit, ils vont se faire exploser par Nirvana dans les charts, mais bref.
Mais comme quoi, ils les ont vraiment portés, chouchoutés. Quoi.
Ouais, complètement, ouais. Complètement. Ils étaient très très proches. Et puis donc, l'image de Dirty Boots, elle est super belle. On a l'impression de regarder une série télé, genre Hartley cœur à vif, plutôt qu'un clip. Le point culminant de l'action, c'est quand donc les deux jeunes décident de monter sur scène pour se galocher derrière les musiciens. Ils vont rapidement se faire jeter dans la fosse en mode stage dive. Franchement, si vous aimez le rock indé et si vous aimez l'esthétique grunge des 90s, il faut absolument regarder cette vidéo qui est un petit bijou du genre et qui vient faire souffler très très fort un vent de nostalgie.
Ouais, elle est charmée cette vidéo. Alors c'est le moment maintenant de faire le bilan de goût. Alors je voulais vous demander votre avis, c'était comment de réécouter cet album, Olivia, c'était comment?
C'était trop bien, moi j'ai adoré.
C'était trop trop bien, ouais.
C'était génial, voilà, c'est tout pour mon analyse. Franchement, j'ai beaucoup aimé pour plusieurs raisons. La première de ces raisons, c'est que j'ai l'impression qu'en ce moment, je suis en colère et je trouve que ça véhicule une espèce de colère, cette musique, et ça correspondait bien, en fait, à mon état d'esprit.
No
une...
future
Olivia, elle a besoin de vacances. Elle a juste besoin de vacances.
Vous êtes tous chiants.
Là, il y a l'hiver qui commence.
Elle était à deux doigts de pas venir aujourd'hui. On a beaucoup de chance. Hein.
Non, une colère douce, évidemment. Je vous rappelle que je suis suisse. C'est un mot qui n'existe pas dans notre chère nation. Non, voilà. Et je trouve que c'est vraiment une musique qui a finalement pas trop vieilli. Certes, ça pue les 90s, mais bon...
Mais pas trop vieilli quand même.
Comme nous, quoi, dans le formol.
Ok, merci Grégoire.
Bah, moi, j'ai jamais tout à fait arrêté d'écouter, donc c'est un peu difficile de dire qu'est-ce que j'en ai pensé aujourd'hui, parce qu'en fait, c'est un album que j'ai écouté il y a 3 ans, il y a 5 ans, il y a 10 ans, que j'écoute encore maintenant. Donc pour moi, c'est un super album de Sonic Youth, comme je disais, avec une préférence quand même pour Washing Machine, qui est mon album préféré de Sonic Youth. Mais voilà, donc pour moi, voilà, c'est toujours un plaisir. J'adore ce groupe, c'est un de mes groupes préférés.
Un bon gros kiff et tu lui mets 10 sur 10.
Je lui mets mais carrément 10 sur 10. C'est l'équilibre, je disais, entre le bruit et la mélodie. C'est parfait. Pour moi, ce groupe, c'est le groupe ultime de rock'n'roll et ça le restera toujours. Et les groupes qui arrivent, le remplaçant de Sonic Youth, il n'est pas encore arrivé. Désolé.
Alors du coup, pour tous les fans de Grégoire Sauvage, si vous voulez lui faire un cadeau, ouais, vous lui offrez des inédits, enfin s'il y en a que t'as pas encore écouté.
Je crois pas. Désolé, j'ai tout écouté.
Ouais, non, bah, moi, hyper contente d'avoir l'occasion de me plonger dans cet album.
Faut dire que ça fait des mois qu'on tanne Manu pour voilà. faire goût. Hein. Enfin, je pense depuis le début de Radio Cassette, on dit à Manu, bon, quand est-ce qu'on fait Sonic Youth?
Un vrai truc, parce qu'il y en a marre de Britney Spears et Mariah Carey.
Oh, oh, non, oh, on va faire des vrais trucs. C'est pas ce que t'as dit lors de l'épisode quand même, donc ne crache pas non plus sur tes premières amours.
Non,
écoute, il en faut pour tous les goûts. C'est aussi ça avec Radio Cassette, c'est-à-dire qu'on est capable de passer de Mariah Carey à Sonic Youth. Et c'est ok, tu vois, voilà.
Mais souvent, quand on fait le bilan des albums, j'ai l'habitude de dire que ça correspond plus trop à mes goûts aujourd'hui. Et là, c'est totalement l'inverse. Parce que Sonic Youth, c'est totalement ce que j'écoute maintenant que je suis adulte. Donc, j'étais évidemment hyper contente d'avoir l'occasion de me plonger dans ce disque que je connais moins de Sonic Youth. En fait, je me rends compte que c'est un groupe que j'ai jamais pris le temps d'assez explorer. Comme je disais tout à l'heure, puis pour rejoindre un peu Grégoire, l'album que je connais surtout, c'est Washing Machine. Et là, je me suis pris une énorme claque et je me suis dit, il faut vraiment que je prenne le temps un jour de me faire toute leur discographie. C'est un très grand groupe.
Tu te bloques 24 heures une journée, quoi.
je sais pas si je vais réussir à caser ça dans mon planning, mais et aussi voilà, je redis encore une fois mon amour pour Kim Gordon, cette déesse du rock.
Kim, si tu nous écoutes,
I love you.
C'est marrant ce que tu dis, parce que se replonger dans la discographie de Sonic Youth, c'est on a dit, c'est un monument du rock. Il y a beaucoup de disques, il y en a une bonne dizaine, il y a plein de choses. Et j'avais posé la question, moi, au début des années 2000, après que j'ai écouté Washing Machine pour la première fois, j'ai posé la question sur un forum qui s'appelait La Caverne, et je suis allé leur demander, j'ai envie de découvrir davantage Sonic Youth, par quoi est-ce qu'il faut que je commence? Et en fait, j'ai mis le feu aux poudres, il y a eu un thread qui faisait des pages et des pages où il y avait les mecs qui disaient, non, il faut les reprendre depuis le début, non, on commence par le dernier qui est vachement bien, non, on fait ci, fait ça, etc. Commence par la trilogie, et ouais, la fameuse, ok. Bon, bah voilà, et finalement, j'ai pas osé. Je me suis un peu arrêté sur Washing Machine, et puis grâce à l'épisode d'aujourd'hui,
je t'ai replongé.
Replongé ouais. dans le goût, et voilà. Donc je trouve que c'est un album qui est mortel, qui est génial. Il y a plein de super morceaux, franchement, écoutez-le si vous n'avez pas encore eu cette chance. Je suis un petit peu refroidi par certains titres à la fin qui sont très très bruitistes. J'aime bien des trucs qui font mal aux oreilles, mais
ouais,
parfois...
Il y a toute une première partie du disque voilà, qui est super accessible, puis la deuxième partie elle est un peu plus... elle est un peu moins accessible. Ouais.
Ouais, comme si ils avaient envie de dire, ok, on a signé sur le major, mais on va quand même faire du bruit, ouais. Tu vois.
Ouais. D'ailleurs, ils voulaient l'appeler Blowjob. Pour faire chier leur maison de disque. Ils se sont dit, tiens, on va appeler notre disque Blowjob. Ils ont dit, non,
qui
peut-être pas quand même. Qui veut dire oui, fellation.
En rapport aussi avec un titre ou un album de Black Flag. Ouais, ouais, il y avait une référence déjà dedans.
Bon, finalement, ils l'ont pas fait. Mais effectivement, voilà, ils citent sur une major, mais ça reste un groupe avec une certaine éthique, on va dire, et encore aujourd'hui. Et c'est ça qui est beau, parce que Thurston Moore, il a un groupe. Il tourne, d'ailleurs je l'ai vu il n'y a pas si longtemps, et voilà, il reste hyper fidèle à leur ligne artistique, Kim Gordon pareil, enfin voilà,
moi,
ça reste des gens bien.
J'ai vu Lirinaldo en solo à la Fondation Cartier, c'était assez chépère, hein. Les mecs ils pendaient en fait de guitare, ils jouaient avec, c'était très 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 spé, c'était vraiment la performance conceptuelle quoi.
Ouais, mais c'est complètement chépère, moi pour le coup je pense il y a 3-4 ans j'ai vu Kim Gordon au Salo Club, le truc était vraiment vendu comme un concert, et en fait c'était pas un concert, c'était une performance artistique de 15 minutes avec une projection de vidéo de Tony Hoesler en fond. Elle a fait deux morceaux bruitistes, la salle était pleine à craquer, et comme tout le monde s'attendait à un concert, quand elle a quitté la scène au bout de 15 minutes, le public entier est resté stupéfait pendant plus d'une demi-heure, on a attendu qu'elle revienne et on comprenait pas. On comprenait pas ce qui se passait.
Kim, ouais. Les mecs, ils ont plus de main à la fin. Quoi.
Jusqu'au moment où, hyper gênés, tous les techniciens sont venus débrancher le matos en mode c'est fini. Et là, la salle a fait un scandale ouf. Et moi, c'était la première fois que je la voyais en concert et je me suis dit, c'est quoi cette merde?
Et t'as payé le prix d'un concert.
Ouais, c'était pas tellement cher.
Ah bah, je veux bien hein, pour 15 minutes, mais même 10€, c'est trop cher.
Ouais, et même travaillant, ouais, enfin bref, même travaillant dans l'art, genre une performance comme ça, c'est pas possible.
Non, moi, ce que je voulais dire quand même, c'est que En effet, on continue d'écouter aujourd'hui adulte cet album parce que ça reste de la musique adulte. Nous, en 90, on n'avait pas l'âge d'écouter Sonic Youth.
Donc, je te confirme, moi j'avais 6 ans.
Bah oui, c'est ça que je dis. C'est que finalement, ça nous poursuit dans nos années d'âge adulte parce que c'est une musique qui est plutôt pas tellement teenager, si je puis
ouais,
dire.
Oui, c'est vrai.
Et c'est vrai que moi, j'étais pas prêt à écouter davantage en fait plus jeune parce que j'avais pas certaines références. Cette culture maintenant que j'ai aujourd'hui, et maintenant quand je me plonge dans cet album, je comprends, je kiffe. Et en plus de ça, ça me rappelle plein de trucs parce que t'as un son qui est 90s, les guitares saturées comme ça, c'est ce qu'on va bouffer pendant des années avec le grunge, quoi. Voilà.
Et pour les auditeurs et auditrices que Sonic Youth intéresserait, je vous recommande chaudement la lecture de l'autobiographie Girl in a Band de Kim Gordon. Qui est un des meilleurs livres sur la musique que j'ai lu. Moi, j'adore les bios de musiciens et celle-là, c'est un régal.
Édition Le Mot et le Reste.
Go.
Alors, c'est le moment maintenant de faire le bilan de goût. Non, j'ai déjà posé cette question.
Alors, avec toi, Olivia, on va commencer par l'histoire de goût, tu sais.
La boucle infernale. L'épisode qui ne s'arrête jamais.
Tout commence en 1980 dans le Lower East Side.
Tout à fait, mon cher Manu. C'est le jour de la marmotte.
Le jour sans fin.
Coucou le best-of. C'est...
Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On avait envie de partager avec vous notre avis sur cet album avec le Sonic Radio Cassette Crew, Fanny,
yes.
Grégoire,
yeah.
Et Olivia.
Hey.
On se retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode. En attendant, retrouvez-nous sur Instagram, sur Twitter et sur Facebook et partagez Radio Cassette sur vos réseaux. Vous pouvez carrément aussi nous laisser un message sur notre répondeur. Ça se passe au 01 89 16 75 31. Soyez pas timide, on a envie de vous entendre. On va écouter vos derniers messages dans un instant. Allez, on se quitte maintenant avec Cool Things. Gros bisous et cœur avec les doigts.
Bye bye, bye.
Ciao.
Bon, allez, je pourrais continuer longtemps, mais je pense à vos oreilles. À bientôt. Ciao, ciao.